Ville Monde.
Le vent de Vancouver souffle, où nous avions jeté l'ancre, voyage dans l'encre des écrivains, souffle et nous mène jusqu'à l'ouest de l'Europe, après l'ouest du Canada. Voyage à Bruxelles, Ville Monde, portrait de la ville en artiste, avec ses créateurs. Ville Monde, Bruxelles, première escale, bon voyage sur France Culture Sans Frontières.
Alors, vous me dites quand je commence. Hein.
Quand vous voulez.
Bruxelles, c'est ici. Et en même temps, curieusement, Bruxelles est toujours ailleurs. Donc j'ai l'impression que je suis l'habitant d'une ville qui, quelque part, n'existe pas. C'est très confortable, ce sentiment. Et quand je suis ailleurs, là, je suis vraiment ailleurs. Mais ici, dans une espèce de double vie, je suis ici et ailleurs, sédentaire et nomade de ma propre ville. En poussant un peu, je me demande qui je suis et où est passée dans cette ville mon identité.
Ville Monde, Bruxelles.
Stadtwereld, Bruxelles.
Ville Monde, Bruxelles, en Belgitude et en amour vache.
Comment ça s'écrit, Ville Monde ?
Maïlis Bessery, Charles Trou.
Ville Monde, Bruxelles.
Ah oui. Stadtwereld, Bruxelles.
C'est une ville qui avait et qui a encore une sorte de force d'inertie incroyable. C'est comme un immense paquebot. Mais avant que ça bouge, ça prend un temps incroyable. Mais s'il y a quelque chose de stable, constamment un peu stable, un peu comme ça, un peu... pas une ville hystérique, une ville un peu triste. C'était une ville un peu triste, un peu nocturne, même en journée, on pourrait dire comme ça. C'est une ville plutôt... Voilà, je cherchais ce mot. Une ville crépusculaire.
L'odeur. Il y a une odeur ici. Chaque être humain a son odeur et Bruxelles a ça aussi. C'est très bizarre. Donc il y a des gens qui sont accros à des cigarettes ou accros à de l'alcool ou accros à des autres. Et moi, je suis accro à Bruxelles. Bruxelles, sel.
Xavier Cannon est directeur du musée de la photographie de Charleroi et commissaire d'exposition.
Ça, c'est les bâtiments staliniens de la Bibliothèque royale. C'est un des endroits ici les plus massacrés de Bruxelles. Ceci était jusqu'aux années 50 un parc absolument magnifique. Ça s'appelait le Mont des Arts. Vraiment un petit jardin où les amoureux trouvent à se planquer, comme ça. Quand on voit ça dans des photos d'époque. Et puis, on a vécu les grands travaux des années 50. Et notamment ce qu'on a appelé les jonctions, c'est-à-dire le rassemblement des gares. À la différence de chez vous à Paris, où les gares sont des terminus, on a imaginé de rassembler les gares, de les relier. Donc on a relié la gare du Nord à la gare du Midi, etc. Et tout ça a créé d'immenses travaux et de choses. Et donc on a créé ces bâtiments. Bon, un jour on les aimera, hein. Faut le temps, c'est juste une question de temps. On va prendre par là peut-être pour éviter les gaufres. Ah non, c'est les frites. On a peut-être des frites Magritte un jour, hein. Des frites en chapeau au melon, ça serait bien. On va prendre là et c'est juste derrière.
Brussel is niet Parijs, niet Amsterdam, niet Londen, niet Duitsland. Brussel is niet Vlaanderen, is niet Wallonië. Brussel is niet mooi. Brussel is niet zuiver en Brussel is vooral niet ernstig. Bruxelles n'est pas Paris, n'est pas Amsterdam, n'est pas l'Allemagne, n'est ni la Flandre ni la Wallonie. Bruxelles n'est pas pure, Bruxelles n'est pas belle. Et surtout, Bruxelles n'est pas sérieuse.
Quand on était ado, on disait... Il y en a qui avaient des copines qui n'étaient pas trop jolies et qui disaient, voilà, j'ose pas trop sortir avec, mais je me sens bien avec elles. Et Bruxelles, c'est un peu ça, c'est une copine un peu moche, mais qui est une vraie bonne copine.
Le dessinateur François Skeuten nous a donné rendez-vous à la gare de Schaerbeek, au nord de Bruxelles.
C'est une beauté cachée. Parce qu'il y a un petit peu la ville des villes dans Bruxelles. C'est-à-dire, on a des morceaux de ville comme si on avait fait une espèce de catalogue de villes. Et un peu un catalogue de toutes les catastrophes des villes, d'ailleurs. C'est assez intéressant. Moi, je trouve qu'on pourrait faire un tour opérateur. Venez découvrir à Bruxelles tous les problèmes que vous pourriez éviter d'avoir. Et en même temps, regardez toutes les qualités que vous pourriez avoir. C'est cette étrange chose qui la rend si attachante et si troublante pour quelqu'un qui raconte des histoires. En fait, on a toujours envie de se raconter une histoire.
Qu'est-ce qui a pu vous inspirer dans la ville précisément ? Est-ce qu'il y a des bâtiments, des choses que vous avez en tête, des couleurs que vous avez eu envie de dessiner ou de redessiner ou de changer ?
Oh, partout,
François
tout le temps. Cette gare dans laquelle nous sommes, je l'ai beaucoup dessinée. J'ai dessiné dans des films, même dans Taxandria de Raoul Servet, dans Bruxel avec Benoît Peters. Et je continue à la dessiner parce qu'elle est très belle, cette gare. Elle est avec son, il y a au-dessus comme une espèce d'oculus, une espèce de clocheton avec quatre œils comme ça qui regardent presque la ville. C'est très, très étonnant. Elle est sortie d'un livre de Jules Verne en même temps. Donc cette gare est vraiment intéressante, mais je vous dirais que le palais de justice continue à me fasciner. C'est un bâtiment monstrueux qui domine la ville. Bruxelles est une ville curieuse, vous savez, elle est la capitale de la Flandre, la capitale de la Belgique, la capitale de l'Europe, et en même temps, elle est abandonnée. Et le palais est un petit peu l'incarnation de tout ça, c'est-à-dire un bâtiment magnifique, très monumental, hein, 70% d'espace inutile, donc une espèce de théâtre de la justice, monstrueux, formidable, babylonien, qui a inspiré d'ailleurs beaucoup de palais de justice dans le monde, hein, tellement qu'il était prototypique, quoi, enfin.
Et qui n'en peut plus d'être restauré ?
Oui, alors elle a des échafaudages depuis 30 ans. C'est d'ailleurs un mystère. Pourquoi on rénove les échafaudages, on renforce les échafaudages aujourd'hui parce qu'ils ont beaucoup vieilli. Tout ça est aberrant. Et pourtant, le bâtiment est très, très intéressant. Et donc, comme ça, il y a plein d'endroits. En fait, c'est les fractures qui m'intéressent à Bruxelles. C'est les ruptures. C'est les moments où on a envie d'être une couturière pour retisser la ville qui est un peu blessée.
Est-ce que vous avez une manière particulière d'arpenter les rues de Bruxelles ? Est-ce qu'on arpente pareil les rues de Bruxelles et les rues de Paris ou d'autres capitales européennes ? François Skuyten.
Effectivement, Bruxelles, il faut faire des focus. Dès que vous faites des plans généraux, vous avez des choses qui ne sont pas terribles. Vous avez envie de faire du Photoshop, de rectifier, de retoucher, parce que vous vous dites « Ah non, ça ne va vraiment pas. » Et puis l'immeuble à l'arrière, ça s'est vraiment raté. Dès que vous commencez à faire des plans serrés, dès que vous commencez à regarder dans les détails, au-dessus d'une porte, mais même dans les tout petits détails, il y a des merveilles. Il y a des sgraffites, ce sont ces dessins sur façade qui sont gravés dans le ciment. Il y a un travail, il y a eu parmi les meilleurs artisans d'Europe qui ont travaillé ici. Et quand on prend le temps de regarder les façades bruxelloises, c'est un émerveillement parce qu'il y a un florilège d'expressions, de talents, de formes, de trouvailles, chaque façade se voulant un petit peu rivaliser, concurrencer ses voisines. Et c'est un éloge de la possibilité de rendre talentueux une façade, de la rendre porteuse d'histoire. Ces bourgeois de l'époque voulaient vraiment des maisons qui se racontent.
Ah, c'est un bloc de béton gluant. Bruxelles, c'est un bloc de béton gluant. Non, mais vraiment, ouais, vraiment, c'est à la fois cet aspect concrete, comme diraient les Anglais, d'un truc un peu blâme, comme ça, un peu froid, etc. Plein d'endroits avec un urbanisme débile et dégueulasse qui a noyé plein de choses. Mais à la fois, ça sue à tous les coins de rue, ça sue. C'est à la fois une ville où, évidemment, qui est pleine de Belgique, qui est pleine de pluie, mais de cette pluie qui n'est pas torrentielle, de cette pluie qui est une espèce de brume permanente, un peu mélancolique. Et Bruxelles, ce serait une ville psychédélique, mais où tous les tons seraient des nuances de gris.
Thomas Gunzig, qu'est-ce qui vous vient comme ça, comme toute petite chose que vous aimez à Bruxelles ?
Est-ce que j'aime à Bruxelles aujourd'hui ? Alors je vais vous donner une réponse affreuse, mais c'est-à-dire que Bruxelles, j'ai l'habitude. Et voilà, je suis comme un vieux, j'aime bien mes habitudes. Mais sinon, objectivement, dans Bruxelles, qu'est-ce que j'aime bien, à part le fait que j'ai l'habitude Donc, c'est une ville plutôt calme. Donc, c'est une ville bien pour les retraités. Quoi.
Voilà. Donc, vous vous estimez faire partie?
Oui, moi, j'ai un côté retraité, un côté vieux.
Luc de Brabander est philosophe d'entreprise.
Moi, c'est ma vie. J'ai grandi, j'ai été à l'école, à Uccle. L'image que j'ai, c'est probablement d'il y a longtemps. Je me souviens du premier feu rouge. Donc, ou je ne sais pas si je m'en souviens, ou ma mère me l'a tellement raconté que je m'en souviens, si c'est un vrai souvenir. J'habitais au goulot de l'avenue Louise, qui est au croisement donc, de deux avenues principales. Et quand j'avais 4, 5 ou 6 ans, on a eu le premier feu rouge. Quoi. Donc, je me souviens d'une... Je me souviens d'un village. Il y avait, vous vous rendez compte, pas de feu rouge. Donc, je me souviens du parc, maintenant où il y a les appartements. C'est une petite ville de province. Mais je me souviens aussi de l'exposition 58. Très, très bien. Là, j'avais 10 ans. Je me souviens de l'atomium. C'est un drôle de mélange. J'ai des souvenirs très villageois et des souvenirs quand même d'une nation dont on était quand même fier.
Est-ce qu'on peut imaginer une sorte de bizarrerie qui consisterait à faire une équation de Bruxelles?
Ah, moi, j'ai été mathématicien. J'aime autant vous dire, l'équation, c'est probablement une équation sans issue. Une espèce d'équation qu'on ne peut pas résoudre.
Ça serait comment?
Ah, elle serait belle. Mais Bruxelles en équation, ah, je la vois. Ou avec, alors, des nombres imaginaires. C'était une invention extraordinaire, les nombres imaginaires. Et on utilise ça beaucoup en électricité. Ah, je crois qu'il y aurait des racines imaginaires à l'équation de Bruxelles. Ah, c'est une superbe équation. Alors, vraiment...
Je suis Stéphane Hartmans, je suis écrivain flamand, vis à Bruxelles, dans les alentours de Bruxelles pour le moment, mais je suis natif de Gand, qui est une ville flamande dans le nord du pays. Et à un certain moment, j'ai déménagé à Bruxelles. Voilà. Il n'y a pas trop de néerlandophones qui font ce mouvement d'immigrer à Bruxelles, parce que Bruxelles est toujours principalement francophone, c'est la lingua franca. Ça veut dire que ça dépend de ce qu'on fait. Si on a besoin, pour ainsi dire, de Bruxelles.
On est ici au Sirio, dans un des bars brasseries les plus anciens de Bruxelles.
Oui, j'adore cette brasserie. C'est une brasserie où les écrivains viennent écrire un peu ou lire un livre, où tout le monde se rencontre. Et c'est en fait la brasserie où, à l'époque, Jacques Brel aimait boire son café aussi bien. Et le Sirio, pour moi, c'est un peu le symbole de la vieille Bruxelles. À Bruxelles, comme il chante, qui à l'époque avait encore cette ambiance. Et pour moi, le Sirio, c'est un peu un symbole où on se trouve à l'aise. Oui. Dans ce café, par exemple, à Bruxelles, vous pouvez commander un half and half. Ça veut dire moitié-moitié. Il s'agit d'un verre de moitié de champagne et moitié de vin blanc. Et la légende dit que c'était les prostituées riches et un peu plus chics qui venaient le matin, quand ils étaient fatigués du travail de la nuit, venaient boire ici, comme petite collation, un half and half, parce qu'ils ne voulaient pas payer un champagne entier. Ils buvaient un half and half. Et toujours, vous pouvez ici commander un half and half. Voilà. En fait, Bruxelles, c'est très intéressant, je trouve. Vous savez d'où ça vient, du point de vue étymologique. Bruxelles, c'est en fait Bruxelles. Ça vient du néerlandais médiéval Bruxelles. Et cela veut dire une sorte de prairie dans les bois. Ça veut dire que la ville était originalement néerlandophone, puis ça a tourné avec le fondement de la Belgique au XIXe siècle. C'est devenu une capitale plutôt francophone. Et puis tout cela a été changé dans un processus bien complexe et compliqué à devenir vraiment officiellement un pays qui a trois langues. Ça veut dire que la situation d'aujourd'hui est un modèle d'une démocratie linguistique. On a un parlement fédéral belge. On a un parlement pour les allemandophones, les germanophones. On a un parlement pour les néerlandophones. On a un parlement pour les francophones. Et on a un parlement spécifique pour la région bruxelloise. Ça veut dire que c'est un pays très coûteux. Ça se paie cher, cette démocratie. Mais en fait, moi, j'en suis fier que ça se passe de cette façon. Qu'on peut régler cela, même encore dans un esprit polyglotte, chaque jour.
Qu'est-ce que ça a été pour vous comme expérience que de venir habiter Bruxelles, que de devenir bruxellois?
Ah, libération. Libération du provincialisme, quoi. Il y a même une certaine tension, mais un peu ironique aussi, entre les Flamands qui habitent Bruxelles et les Flamands qui habitent la Flandre. Parce que le Flamand qui habite Bruxelles, il est bilingue, il passe d'une langue à l'autre, il n'en fait pas une dispute ou une question de principe. Bon. À un certain moment, j'empruntais l'atelier, la chambre de l'écrivain David van Reybroek, qui a écrit ce livre merveilleux Congo et qui habite aussi Bruxelles. Et quand j'ouvrais la fenêtre, j'entendais le lingala, le berbère, l'arabe et le swahili. Tandis que dans le Parlement, on se dispute du flamand et du wallon. C'est un peu... Vous voyez, Bruxelles est en train de bouger dans une direction vraiment ouverte, comme New York, etc., où tout se passe dans un aspect polyglotte. Tandis que les politiciens ne s'en rendent pas compte. Ça va beaucoup plus vite dans les rues que dans les parlements.
Si on est près du quartier européen...
Gage Gaetano est chanteur, compositeur, interprète.
Voilà, le Palais Royal. Traversera, traversera pas, traversera.
Est-ce qu'il y a vraiment l'ombre des chanteurs comme Jacques Brel à Bruxelles ?
Ah, Jacques Brel, clairement. Hein. Mais... Vous savez, j'ai une histoire un peu particulière avec Jacques Brel parce que il y a une chanson qui s'appelle Ces gens-là que vous connaissez sans doute. Et il parle de la Denise. Il dit qu'il a marié la Denise dans cette chanson-là. Et bien, il se trouve que la Denise, c'était la grand-mère de mon cousin Germain. En fait, Denise était mariée à un gars qui s'appelle Paul Mickelson. Et Paul Mickelson, c'était le frère de Mich. Et Mich, c'était la femme de Brel. Donc il y a un peu l'ombre, effectivement, il y a l'ombre de Brel qui est toujours là. Devrais-je dire plutôt la lumière de Brel ? C'est mieux. D'ailleurs, ma sœur, quand elle était petite, elle allait donc chez Paul Mickelson, chez Denise, et il y avait le piano de Brel qui était là. Et Brel n'était jamais là, évidemment, mais elle savait très bien. On disait, ah, c'est le piano de Brel. Je vais dépasser le bus, quand même, parce qu'à mon avis, il n'a pas l'air de voir... Alors ça, c'est un quartier ici, on est juste à côté du Sablon. Je sais pas si vous avez vu cette arrivée près de chez vous, le film avec Benoît Poulvord. Mais il y a un moment où il va voir son amie, je pense qu'il s'appelle Jenny dans le film La Prostituée. Et ben, c'est clairement tourné dans le quartier du Sablon ici. Le Mont des Arts, beaucoup de touristes qui viennent ici admirer la vue sur Bruxelles.
Bonjour, je suis Arnaud et je suis un chanteur de charme raté.
Alors Arnaud, on est ici à Bruxelles et quand on arrive à Bruxelles, on nous dit parmi les monuments qu'il faut visiter à Bruxelles, il y a Arnaud.
Ah bon ?
C'est pas vrai ?
Bah écoute, je suis habillé et mon occupice, il n'est pas habillé. Hein. Donc, il a deux couilles là, non les huit couilles, atomium. Ce sont huit couilles. Hein.
Les huit boules de l'atomium.
Oui, les boules.
C'est une blague bruxelloise, il faut l'expliquer. Hein.
Mais non, c'est la vérité. Et je dis toujours, quand je sors de chez moi et je fais pipi au sud, Paris est mouillé. Et quand je fais pipi au nord, Amsterdam est mouillé. Tu vois le bazar ? Moi, je suis plus près de Paris que quelqu'un qui habite à Rennes ou à Lyon. Allez, et je prends le train 1h03 et je suis à Londres. Comme je parle 4 langues et je suis influencé par... Et je chante en 4 langues aussi. Et je suis un Européen. Mais moi, Bruxelles m'inspire.
Vous êtes arrivé à Bruxelles en quelle année ?
71.
71 ?
Ouais. J'ai vécu à Amsterdam et j'ai vécu... à Copenhague et j'ai vécu à Paris. Mais j'ai toujours gardé un appartement à Bruxelles. Mais j'ai tout ici, tu vois le bazar. Je vois tous les gens, il y a des restaurants, des bistrots. On peut manger tout ici. Chinois, japonais, italien, couscous, juif, tout le bazar. Tout est ici. Et je vis avec mon cul dans le beurre ici. Ou dans les nouilles.
Ou dans les frites.
Dans les frites, oui.
Est-ce que vous avez une liberté à Bruxelles que vous n'auriez pas ailleurs? Les gens vous connaissent, on dit, ah bah oui, l'archiduc, c'est oui. Un des cafés d'Arnaud, Arnaud, il aime bien.
Mais écoute, ici, ça n'existe pas, un star system.
Ici, le star system, il n'existe pas.
Non, non, ici, ça... Parce que dans cette bar, moi, j'ai déjà été avec David Bowie, Brian Ferry, Debbie Harry, mais les gens, ils sont... Ça n'existe pas ici, on est tranquille ici. Ça, il faut pas jouer les stars ici, hein. C'est ça, non, hein. Ça, c'est Bruxelles, quoi. En plus, il y a beaucoup de gens qui ont habité ici, mais Rimbaud a habité à Bruxelles, Victor Hugo, Karl Marx, il a écrit son manifeste entre Bruxelles et Ostende, et il y a plein de gens qui ont habité ici. Par exemple, Magritte, c'est aussi un Bruxellois. Magritte Apple, tu connais Apple? C'est une peinture de Magritte. Hein.
Ça aussi, c'est Bruxelles?
Ah oui, Magritte, ça c'est Bruxelles. Allez, hein. Allez, Circle Lady.
Mais Arnaud aussi, c'est Bruxelles.
Bah, je suis un parti, mais écoute, quand tu restes ici après un an, tu es Bruxellois.
Caroline Lamarche est écrivain. On l'a retrouvée au Mot Café dans les Galeries Royales.
Alors le Mot Café, c'est le café que tous les artistes connaissent, mais aussi énormément de gens. Le pic de fréquentation se situe, ça m'a frappé, plutôt vers 4-5 heures. Et moi, je me suis toujours dit que c'était les personnes un peu plus âgées et que quand je serai vieille, je viendrai ici.
Alors c'est les galeries qui sont juste à côté de la Grand Place.
Ce sont des galeries magnifiques. Pour moi, c'est un des plus beaux lieux de Bruxelles. Et elles ont une fonction de lien, puisque d'un côté, on va trouver la Grand Place, la merveille de la Grand Place. Puis de l'autre, si on continue un peu par là, on aura le café historique La Mort Subite, mais on aura aussi l'Opéra de la Monnaie. Et voilà, donc c'est un lieu vraiment central. On n'est pas loin non plus. Si on monte, on va se retrouver à Beaux-Arts, donc au Palais des Beaux-Arts, où ont lieu des concerts, du cinéma, du théâtre, des événements littéraires. Si nous descendons, nous avons Passaporta, la Maison des Littératures. Donc c'est vraiment ces galeries, un lieu absolument central et un lieu de passage. Et il y a la Galerie du Roi, la Galerie de la Reine, où nous nous trouvons. Voilà. C'est bruyant, comme vous pouvez l'entendre, ça résonne. Il y a une verrière en forme, je dirais, de quille de bateau renversée, qui est extrêmement lumineuse. La galerie est peinte en rose pâle et il y a des colonnes de faux marbre. Et tout ça est à la fois élégant et assez léger, je trouve. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça, étant donné la monumentalité de ces galeries, je trouve ça reste assez élégant. Et...
Ici, au numéro 11, il y a une confiserie, une épicerie. Et en fait, c'est un lieu historique qui est connu.
Tout à fait, parce que c'était le lieu où se trouvait l'armurerie Montigny, qui a cessé ses activités, je crois, dans les années 80. Et l'armurerie Montigny, c'est là que Verlaine a acheté le pistolet qui lui a servi à tirer sur Rimbaud. Alors l'histoire de ce pistolet est assez extraordinaire parce que lorsque Verlaine a été écroué ici à la prison de Bruxelles, on lui a évidemment pris le pistolet que les policiers, les gendarmes ont rapporté à l'armurier Montigny qui lui a mis une étiquette Verlaine et qui l'a laissé à la cave. Et puis, à la fermeture de l'armurerie, dans les années, je crois 80, le dernier propriétaire de l'armurerie a fait appel à un de ses amis qui était huissier de justice pour qu'il l'aide à faire l'inventaire de toutes les armes qui restaient encore dans les caves. Et pour le remercier, il lui a dit, tiens, je te donne une curiosité. Tu sais, c'est un poète qui a tiré sur son ami. Voilà, tu peux l'avoir, c'est son pistolet. Et lui, cet huissier de justice, quand il a appris qu'il y avait la grande exposition Verlaine-Rimbaud en 2004 à Beaux-Arts, a téléphoné au commissaire de l'exposition, Bernard Boussmann, en lui disant « J'ai le pistolet de Verlaine ». Et personne ne voulait le croire. On pensait que c'était un canular. Et ce pistolet a été expertisé par la police. Il y a eu des études balistiques qui ont prouvé qu'en effet, il n'avait tiré que 2 coups. Et que c'était bien le pistolet qui avait servi à Verlaine pour tirer sur Rimbaud.
Caroline Lamarche, si on parle des excès de l'alcool, des excès, est-ce que ça, c'est une ville d'excès, Bruxelles ?
Alors, est-ce que c'est une ville d'excès ? Je pense... vous savez, ce qui me vient, c'est peut-être une curieuse association d'esprit, mais Chantal Akerman vient de mourir. Et on est tous très touchés, très émus et bouleversés parce que peut-être qu'elle ne remplissait pas les salles, mais quelque part, elle nous a marqués. Et c'était une personne excessive. Je pense que sa ville était Bruxelles. Elle disait qu'elle n'était de nulle part. Elle disait en anglais dans une interview « I don't belong, je n'appartiens pas ». Peut-être que Bruxelles, c'est la ville où on n'appartient pas. En tout cas, moi, je n'appartiens pas à cette ville. Je crois que j'appartiens plutôt à ma ville natale, qui est Liège, qui dégage un sentiment d'appartenance très fort. Bruxelles, c'est une ville de rencontres, c'est une ville de culture. Est-ce que c'est une ville d'excès ? Si je pense à Chantal Akerman, au film, au court-métrage notamment qu'elle a réalisé à Bruxelles, oui, c'est une ville d'excès, c'est une ville de folie, c'est une ville dans ce sens certainement excentrique. Alors, ville d'excès, je n'ai pas vraiment de réponse. Je pourrais dire que c'est quand même une ville aussi très bourgeoise. Par exemple, si vous allez à Beaux-Arts précisément, la grande salle magnifique de concert, qui est une pure merveille avec une acoustique extraordinaire, s'appelle salle Henri Leboeuf. Et qui était Henri Leboeuf ? Ce n'était pas un musicien. C'était un banquier, mécène, mélomane. On aurait pu appeler la salle César Franck. On l'aurait fait en France, je pense. Ici, c'est la salle Henri Leboeuf. Je pense que c'est assez significatif. Moi, c'est quelque chose qui m'a frappé quand j'ai été, par exemple, au cimetière de Laeken, comparé, par exemple, au cimetière du Père Lachaise à Paris. Ici, nos grands monuments, ce n'est pas pour les artistes, c'est pour les banquiers. C'est pour les propriétaires de grands magasins.
Donc je commence. Donc Bruxelles, c'est la première fois que j'ai un endroit où je sens chez moi. Donc c'est comme un lit quelque part où je sais que je vais bien pouvoir dormir. mais c'est surtout un endroit qui est en constant mouvement, donc il est fluide. Et donc, du coup, on est à l'abri sur les sables mouvants. Et donc, il y a toujours du passage, il n'y a rien de fixe. Comme les trottoirs, comme le temps, comme les gens, comme les idées, comme la politique, comme la vie, voilà. Bruxelles.
Philippe Gueluc, si je vous dis Bruxelles, quelles sont les premières images qui vous viennent, les premières impressions ?
Les premières images qui me viennent de Bruxelles, c'est... C'est Godefroy de Bouillon, la statue de Godefroy de Bouillon au milieu de la place Royale. C'est le palais de justice, c'est la grande place et c'est surtout un enchevêtrement d'époque et d'architecture magnifique d'un côté et monstrueuse de l'autre. Au point que la bruxellisation d'une ville est devenue un terme d'architecture internationale.
Péjoratif.
Ah oui, péjoratif. Des écoles, des professeurs en architecture emmènent leurs étudiants en voyage à Bruxelles pour leur montrer ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc, si vous voulez, Bruxelles a un côté Bucarest des années les plus noires ou Hiroshima peu de temps après la bombe atomique. Il y a des quartiers dévastés, des quartiers fantômes, et puis à côté de ça, tout à coup, 3 rues qui sont sublimes, qui ont échappé au délire des investisseurs, et puis des tours qui ont été construites au milieu de quartiers historiques. Voilà, c'est ça Bruxelles aussi, vu de l'extérieur. Heureusement, sa beauté intérieure est intacte.
Qu'est-ce que c'est un Bruxellois, si vous deviez en faire la caricature ?
Le Bruxellois, il est joyeux, il est humble, il est plutôt accueillant, il est plutôt sympathique. Et on ne lui en raconte pas, c'est-à-dire qu'il a tout vu, il n'est pas très vindicatif non plus. C'est peut-être le reproche que je pourrais lui faire, c'est-à-dire qu'il se fait rouler dans la farine par le politique depuis des décennies. Il courbe un peu la tête et, en attendant que ça passe, mais ça ne passe pas. C'est plutôt des bonnes personnes, je dirais.
On parle souvent de Bruxelles comme un carrefour de mixité avec la double identité. Est-ce que c'est vrai ?
Bruxelles est une ville très cosmopolite. Les deux langues, le flamand et le français, qui s'y côtoient et qui ont donné le bruxellois, qui est un patois évidemment incompréhensible pour des francophones venus d'ailleurs.
Les bruxellois le parlent tous ?
Non, les plus anciens le parlent. Moi, je le parle un petit peu, c'est des expressions...
C'est comment le bruxellois ?
Un vrai vieux bruxellois va vous parler « Esprit un petit flamme, un petit franc ». C'est quelqu'un qui passe d'une langue à l'autre, qui traite quelqu'un de « smokeler », qui est un « smokeler », c'est quelqu'un de pas net, de pas correct, ou d'architecte. Ça, c'est une insulte à Bruxelles.
C'est une insulte, architecte.
Architecte. Si on vous traite d'architecte, c'est pas gentil. Et si on vous traite de skive, un architecte, ça, c'est pire. Skive, ça veut dire de travers. Donc, si vous êtes un architecte de travers, c'est la pire insulte que vous puissiez imaginer. Et ça date réellement de l'époque au 19e siècle où le palais de justice a été construit sur une partie du quartier des Marolles, qui était le quartier populaire de Bruxelles, là où il y a le vieux marché, enfin les Marolles, c'est là qu'est enterré Bruegel, c'est le cœur populaire de Bruxelles. Une grande partie du quartier a été expropriée pour construire le palais de justice, et donc les gens fichus à la porte de chez eux en ont tenu rigueur, non pas aux politiques qui étaient responsables, mais à l'architecte Poulard qui a construit le bâtiment et qui est mort fou d'ailleurs.
Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être dessinateur, auteur à Bruxelles ?
Ça semble logique. Quand on est enfant en Belgique, dans les années 50-60, deux possibilités s'offrent à vous, devenir gendarme ou dessinateur. Et il n'était pas question que je rejoigne les forces de police ou l'armée, donc j'ai choisi dessinateur. Il n'y avait pas tellement d'autres choix possibles. Je suis né dans une famille d'artiste, mon père ayant été dessinateur lui-même, ma mère ayant fait des études de chant, mon grand frère, de 7 ans plus âgé que moi, est devenu graphiste. Et donc, dans la famille, c'était à peu près logique qu'on se dirige vers ces voies-là. Et je suis à peu près certain que si j'avais choisi autre chose, si j'avais voulu devenir ingénieur ou pharmacien, ma famille m'aurait tourné le dos. J'aurais été la honte de la meute.
Claudio Pacienza est cinéaste, réalisateur de documentaires.
La question.
Qu'est-ce que Bruxelles n'est pas ?
Bon, alors, Bruxelles n'est pas une ville hystérique, ce n'est pas une ville péteuse, pas une ville chère, ce n'est pas une ville austère, ce n'est pas une ville exubérante non plus, ce n'est pas une ville chiante, ce n'est pas une ville... hostile.
Est-ce qu'il y a des choses à Bruxelles que vous aimez de manière passionnée, viscérale ?
Vous avez entendu les Bruxellois parler en bruxellois ?
Non.
Non.
Ils nous en parlent, mais ils ne le parlent pas vraiment autour de nous.
Ah, c'est très étrange, parce que il y a... Comment appeler ça ? C'est pas un dialecte, c'est une langue. Et ça claque.
c'est du flamand, du français, c'est une chose tout à fait, comment dire, une synthèse, non, parfaite de quelque chose qui n'est pas nécessairement la Flandre et la Wallonie, comme ça, mais d'un monde qui vient d'un ailleurs historique, comme ça, et on sent quelque chose qui... Je ne sais pas, moi j'ai envie de dire bruegelien, bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est quelque chose de franc, voilà, franc. Il y a quelque chose de franc dans cette langue. Ça chante, ça claque au sens presque musical, comme ça, ça ta-ta-ta-ta. Et dans certains quartiers, on entend encore ça. Dans certains quartiers, je pense à certains quartiers, à Molenbeek, je pense dans le centre-ville, ça devient rare, hein, c'est une langue qui disparaît comme ça. Et ça, j'adore. J'adore ça, je ne sais pas pourquoi.
Votre carte imaginaire de Bruxelles, elle vous emmènerait où?
Moi, je fréquentais la Cinémathèque. Je faisais des trajets, des allers-retours. Alors, la Cinémathèque, entre ma maison et la Cinémathèque, il y a 2 kilomètres à pied, comme ça. Je faisais toujours le même trajet. Et la Cinémathèque... C'est le lieu idéal pour fuir la ville. Et en même temps, je retrouvais la ville dans la cinémathèque. Les mêmes visages, les mêmes cinéphiles. C'est un peu à partir d'ici que moi j'ai beaucoup voyagé. En sens que on peut découvrir à peu de frais, on peut dire. On peut voyager à peu de frais. C'est un endroit où... Moi, j'ai pu découvrir le cinéma brésilien, le cinéma grec, le cinéma... Enfin, un peu à l'image de ce qui était à l'extérieur, un peu pour moi, dans mes quartiers où je vivais, comme ça.
Est-ce que cette ville-là, elle est plus facile à s'approprier en tant qu'artiste visuel, Claudio Pazienza?
Filmer Bruxelles... Pour moi, Bruxelles n'est pas une ville facile à filmer. Un film magnifique qui s'appelle Dimanche, qui a été fait au début des années 60, c'est un court-métrage, par un cinéaste qui s'appelait Edmond Bernard. Et il filme à Bruxelles, et il filme le temps, l'ennui, le dimanche. Et on voit une ville un peu parcourue par une certaine bourgeoisie, des enfants, des gens qui se retrouvent dans le parc, des hommes qui vont faire du tir dans des centres, comme ça, des amoureux qui se retrouvent. Et pour moi, c'est un film qui parle tellement bien de Bruxelles parce que il y a du vide dans ce film. Il y a du silence, il y a de l'air, même si c'est très fragmenté comme ça. Il y a cette idée de un temps suspendu. Il y a quelque chose de cet autre-là, un peu.
Je m'appelle Thomas Gunzik et j'écris des histoires, des romans, des scénarios, des spectacles.
Alors, vous êtes un Bruxellois?
Moi, je suis un pur Bruxellois, né à Bruxelles, sans doute suicidé à Bruxelles, et donc, voilà, oui, pur Bruxellois. Mon Bruxelles à moi, c'est très clairement la maison où j'ai grandi, sur une petite place de Watermal-Boisfort, à l'orée de la forêt, maison qui a, hélas, été vendue par mes parents et que je ne retrouverai jamais. Donc ça, c'est affreux. D'abord, c'était une maison qui se trouvait à l'orée de la forêt, donc il y avait... toujours plein d'oiseaux, on entendait passer des chevaux dans la rue, le bruit des sabots des chevaux sur la rue, il y avait le bruit des tondeuses à gazon le samedi ou le dimanche matin, un peu l'odeur de la campagne, hein, du foin, du purin et des fleurs comme ça. Je ne peux pas m'empêcher de voir dans ce souvenir le soleil qui passe à travers les fenêtres de ma chambre et j'avais une très belle vue sur la cime des arbres parce que j'étais un peu en hauteur comme ça. Et c'était beau tout le temps. Ouais.
Thomas Gunzig, est-ce que la ville, elle a une importance particulière dans votre écriture? Est-ce que vous avez l'impression, comme certains peuvent toujours rêver de la même maison d'enfance, du même endroit, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a cet attachement littéraire aussi à votre ville?
Non, pas spécialement. C'est-à-dire que
J'ai fait beaucoup d'histoires qui se passent dans des villes, forcément. Mais j'ai fait des villes assez neutres et assez peu reconnaissables. Mais je pense que c'est aussi peut-être le propre de Bruxelles, qui est une ville qui, je ne sais pas si on peut dire ça, mais qui a perdu beaucoup de sa personnalité, en fait. Est devenue une ville qui a été tellement... on a essayé tellement de la ravaler, de la rénover, de la rendre plus fonctionnelle. Elle a été tellement... imaginé, repensé, redessiné, quand finalement elle ne ressemble plus à grand chose. C'est devenu des espèces de boulevards, des lieux de passage, des lieux vides, vaguement abandonnés par les habitants, ou ceux qui restent, c'est ceux qui n'ont pas les moyens d'aller ailleurs. En tout cas, j'ai jamais trouvé un angle d'attaque fictionnel qui soit vraiment intéressant. C'est pas une ville. Qu'est-ce qui reste dans Bruxelles une fois que tous les gens qui bossent à Bruxelles sont partis le soir ? Il reste soit dans les quartiers aisés, il va rester les fonctionnaires européens, tout ce qui graffite autour des institutions européennes, c'est-à-dire les lobbies, etc. etc. C'est peut-être toute une série de petits indépendants, beaucoup de chômeurs, beaucoup d'artistes à la petite semaine qui jobent dans les cafés... d'artistes qui sont venus de France, d'Italie, d'Espagne, parce qu'il y a encore moyen, plus ou moins peut-être, d'aller dans des écoles d'art où il n'y a pas trop d'examens d'entrée, où c'est plus ou moins facile de rentrer, où c'est pas trop cher. Et donc voilà, peut-être que Bruxelles, le Bruxellois, c'est ça aussi, c'est quelqu'un qui n'a pas trouvé mieux ailleurs.
Nathalie Stelmans, je suis historienne, je suis enseignante et aussi romancière. J'ai écrit 3 romans historiques.
Nathalie Stelmans, on traverse la Grand Place. Les Bruxellois sont un peu réservés sur leur ville en disant « Bon, elle a été déconstruite, elle n'est pas toujours très jolie ». C'est quand même spectaculaire, la Grand Place.
Alors, la Grand Place est spectaculaire et c'est grâce, entre guillemets, à Louis XIV, puisque Louis XIV la bombarde en 1695, pour de très mauvaises raisons. En fait, il ne cherche pas à prendre Bruxelles, mais il cherche à prendre Namur. Et comme Namur était gardé par des Anglais à cette époque-là, il espérait qu'à l'annonce de ce bombardement, les Anglais allaient lâcher Namur et venir protéger Bruxelles. Les Anglais n'ont pas bougé et donc Bruxelles a été détruite pour rien, et elle a été complètement détruite pour ce qui est de la Grand Place, puisque à part un morceau ici de l'hôtel de ville et un morceau de la maison du roi face à l'hôtel de ville, tout était par terre et a dû être reconstruit. Grâce à ça, on a cette Grand Place qui est très homogène, qui est magnifique, puisqu'elle a été reconstruite en quelques années seulement, et donc c'est grâce à cette destruction qu'on a cette merveille aujourd'hui.
Très belle, dorée.
Oui, donc en restauration, évidemment, mais ce qui a été restauré est resplendissant, avec des façades blanches, des statues, des clochetons. C'était des maisons de corporation, donc elles sont chaque fois décorées des symboles des métiers qui les ont occupées pendant longtemps. On a en particulier la statue de Charles de Lorraine sur son cheval, tout en haut de la maison de l'arbre béni. Voilà.
C'est un lieu qu'on traverse, la Grand Place à Bruxelles. Est-ce que, d'un point de vue de l'imaginaire de la ville, on peut se dire que c'est, comme la perspective Nevsky de Gogol, ou dans cette tradition littéraire, un lieu où, selon les jours, selon le moment de la journée, toute la population, quel que soit son milieu social, traverse ce lieu?
Oui, effectivement, on y trouve toutes sortes de gens qui doivent la traverser pour remonter du bas de la ville vers le haut de la ville. Il y a aussi l'hôtel de ville proprement dit, donc c'est aussi un lieu de vie administratif, il y a des mariages ici, etc. Donc ça reste, ce n'est pas uniquement un endroit touristique, ça reste vraiment aussi un lieu de vie quotidienne pour tous les habitants de Bruxelles-Centre, ce qui est déjà pas mal de monde.
Et vous, Nathalie Stelmans, est-ce que vous imaginez, dans ce décor-là particulier, raconter des histoires? Est-ce que c'est inspirant pour un auteur qui connaît bien l'histoire de sa ville, de la ville de Bruxelles, d'écrire des histoires dans ce décor?
Je préfère en fait personnellement la vie de gens plus normaux, et donc je suis davantage inspirée par des maisons beaucoup plus simples dans lesquelles ont vécu des gens comme vous et moi, dont on peut alors essayer de retrouver la trace. Et bien sûr, ces gens vont traverser la Grand Place et c'est l'occasion à ce moment-là d'en parler, d'utiliser comme archives par exemple des descriptions de voyages de touristes du du 17e, 18e, qui décrivent la Grand Place, qui ne l'aiment pas nécessairement. C'est ce qui est parfois amusant aussi, d'avoir leur regard sur les choses. Sur la Grand Place, il y a eu des épisodes tragiques aussi, puisque pendant l'après-révolution française, quand les États ici ont été acquis par la France, c'était sur la Grand Place que se trouvait la guillotine. Donc il n'y a pas eu que des belles choses dans l'histoire sur cette Grand Place non plus.
Laurent de Sutter est auteur et éditeur.
Avec le piétonnier, en plus, il risque de ne pas y avoir trop de bruit. Parce que les bagnoles sont toutes en train d'être chassées. Bon, les Bruxellois sont tellement frénétiquement attachés à leur bagnole, parce qu'il y a un rapport dans cette ville, un rapport très étrange au matériel, comme dans toutes les villes de province, finalement. C'est-à-dire les briques et les bagnoles. C'est quelque chose de très, très important. Et donc, du coup, le fait que les gens ne puissent plus aussi facilement qu'avant venir dans le centre-ville de Bruxelles, alors que de toute manière, Bruxelles est dans tous les classements, c'était un classement Forbes, je crois, de l'année dernière, qui indiquait que Bruxelles était la ville la plus embouteillée du monde. C'était quand même absolument hallucinant. La seconde ville la plus embouteillée du monde étant Anvers. Il faut croire que les Belges ont vraiment un problème avec les embouteillages. Et donc, le fait qu'ils ne puissent plus avoir accès à leur centre-ville fait que, aussi facilement, fait que, soi-disant, ils ne viennent plus. Et donc, du coup, certains commerçants râlent, on perd nos clients, machin, machin. Et donc, du coup, les autorités communales qui ont lancé ce piétonnier il y a quelques semaines ont décidé, en catastrophe, de fabriquer toute une communication sur « Mais non, vous pouvez venir, c'est très bien, c'est fantastique, tout ça. »
Et ça s'appelle le piétonnier, hein, le centre-ville piéton, vous appelez ça le piétonnier.
Ça n'a pas de nom, oui, ils ont appelé ça, oui, ça, c'est devenu le piétonnier, oui.
Laurent de Sutter, on essaie de comprendre ce que c'est que Bruxelles, la capitale, Bruxelles, la région, Bruxelles, carrefour de l'Europe. On a du mal à comprendre ce que c'est Bruxelles. Qu'est-ce que vous diriez, vous, de cette ville ?
C'est un piège. C'est un piège. Vous savez que Bruxelles, à l'origine, a été construite sur des marécages. Donc ici, il y avait une rivière qui a été complètement voûtée au 19e siècle, qui s'appelle la Seine. S-E-2-N-E. Et vous savez, les places qui sont un petit peu. Les places qui sont derrière la place Sainte-Catherine, derrière la place Sainte-Catherine, place du vieux marché aux poissons, etc. etc. Il y avait des bateaux qui arrivaient jusque-là. C'était véritablement des ports, enfin des petits ports. Voilà. Et donc Bruxelles est vraiment construit sur l'eau, construit sur des marécages. Au 9e siècle, c'était des marais. On ne pouvait pas vivre ici. C'était insalubre. Et le fait qu'elle ait été construite sur des marécages donne à penser que c'est effectivement une ville où l'on peut se perdre et s'embourber, s'engluer, sans trop savoir pourquoi. Et la question de quel est son statut véritable institutionnellement, ce que ça représente, son image, je pense, est liée à cette origine marécageuse. Il est impossible effectivement de la définir clairement, et de toute manière, même les Bruxellois eux-mêmes s'y retrouvent pas. Du reste, vous avez oublié toute une série d'autres subdivision au-delà de capitale de l'Europe, capitale de la Belgique, capitale de la communauté flamande, mais pas de la communauté française.
Au milieu de la Flandre.
Au milieu de la Flandre.
Mais pas flamande.
Mais pas flamande, puisque la majorité francophone, 85% de francophones. C'est aussi et surtout 19 communes, plus des espèces de satellites. C'est-à-dire, c'est comme si les arrondissements de Paris étaient toutes des villes indépendantes. Donc ça donne encore un mélange très très particulier où les gens qui habitent Uccle regardent d'un drôle d'air ceux qui habitent Berkem-Saint-Agathe, qui eux-mêmes regardent d'un drôle d'air ceux qui habitent Laeken, qui regardent d'un drôle d'air ceux qui habitent Saint-Pierre, etc., 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 avec des structurations sociales, géographiques, etc., très fortes, un côté de la Seine, l'autre côté de la Seine, etc.
C'est le canal qui fait la division.
Ouais, le canal, ouais, ouais. L'est de Bruxelles étant plus bourgeois que l'ouest de Bruxelles, enfin bon, voilà. Les habituelles querelles de clochers, le côté un peu cloche-merle, comme ça, qui peut y avoir quand même à Bruxelles.
Merci. Je passe devant.
Je suis Nicole Mossou et je suis chorégraphe.
vous, votre Bruxelles, il est où ?
Je m'attendais à la question, quel endroit préférez-vous à Bruxelles ? Et alors, je pense l'ascenseur. Il y a un ascenseur tout en verre qui relie le haut de la ville où sont les magasins de luxe au bas de la ville, ce qui est les Marolles où nous sommes, qui étaient les lieux mal famés. Bon, ça a bien changé. Et cet ascenseur tout en verre fait, quand on monte, descendre toute la ville comme ça et remonter quand l'ascenseur descend. Et c'est assez magique parce qu'il est transparent. On ne sait pas si c'est l'ascenseur qui monte ou la ville qui descend. C'est cette impression-là, ça donne un léger vertige qui n'est pas désagréable. Le vélo, les bourgeois qui viennent s'encanailler dans les Marolles. Non, ça
c'est l'ascenseur social en plus.
Oui, c'est cela. Non, mais c'est les ascenseurs comme on en a à Lisbonne. Enfin, c'est l'ascenseur public. Et puis quand on est en vélo, on est bien content d'avoir cet ascenseur. Parce que cette ville est assez vallonnée. Ouais.
Je m'appelle Jacques Socher. Mais tout le monde ne prononce pas mon nom correctement. Donc je répète, Jacques Socher.
Jacques Socher est philosophe et écrivain.
Je suis bruxellois, oui, je suis né à une commune de Bruxelles, Etterbeek, à Bruxelles, en 1939. Ce n'était pas très bien choisi comme date de naissance, c'était la déclaration de la guerre. Et alors je vais vous raconter une anecdote, j'aime beaucoup, quand j'étais avec ma mère rue aux Choux, c'est une vieille rue à Bruxelles, dans le centre, et à l'étage, il y avait le comptable d'un magasin qui a brûlé, l'Innovation, c'est un grand magasin, il y a eu un incendie terrible à un moment donné. Et sa femme était femme de ménage. Et quand il partait, le matin, j'assistais chaque fois aux adieux d'Hector et d'Andromaque. Ça donnait à peu près ceci. « Mon trèque de studio ne parle plus de Nike. Mon autonome de l'électrique, je ne parle que de Nike. Lui, de Nike. Ah, pitch, comme un Nike, pitch, comme un Nike. Mon blague, lui, de Nike. Un petit kick, de Nike. Bon, plus de... » Ah, je trouvais ça tellement touchant. Et j'ai gardé l'accent flamand. Et donc, quand je vais en verse et qu'on parle flamand, je dis « Probeer Vlaams te spreken, dat is een beetje moeilijk voor een francophone, mais ik heb een Vlaams gevoel. » J'ai un sentiment dans le cœur flamand, ce qui est vrai. Je suis un francophone avec un sentiment dans le cœur flamand.
C'est une ville que vous aimiez quand vous étiez enfant, Bruxelles ?
Mais j'ai toujours aimé Bruxelles parce qu'on peut beaucoup marcher. Il y a pas mal de parcs. Il y a énormément de parcs, il y a beaucoup de jardins, les gens, beaucoup de jardins. C'est une ville très verte. Et puis, ce que j'aimais bien, c'est les gens. J'aime toujours les gens. Parce qu'il y a une espèce d'humour belge qu'on appelle la svance.
C'est quoi la svance ?
La svance, c'est une façon de tourner en dérision les choses, de ne pas se prendre tout à fait au sérieux. Il y a une ironie, une autodérision, une façon de tourner les choses en plaisanterie, une certaine façon de ne pas se prendre au sérieux que j'aime bien. Il y a des mots comme ça.
Ça voudrait dire autodérision ?
Par exemple, il y a un mot qui est quelqu'un qui fait le fier, on dit il fait le diconec. Il fait le gros coup. Mais diconec, il y a une sonorité comme ça. Le bruxellois, c'est pas mal.
Vous parlez un peu bruxellois ?
Oui, je peux me débrouiller, oui. Mais, et donc, dans Tintin, il y a plein de mots en bruxellois, par exemple. C'est amusant. Oui.
Il y avait des endroits où vous aimiez bien aller dans le centre ?
Je crois que je me promenais dans la ville pour découvrir. Je faisais des grandes marches pour découvrir les quartiers que je ne connaissais pas. J'aimais bien explorer la ville en étant le piéton de la ville. Vers 12 ans, ça, quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas une fois de ville, c'est des souvenirs de lieux dans la ville et de modes de vie.
C'est des impressions.
Il y avait un épicier tout rouge, comme ça, monsieur Verbist. Et puis il y avait un type qui était comme ça, avec une Harley Davidson, une veste en cuir. Il m'impressionnait beaucoup. Et puis mes copains m'ont dit, c'est un souteneur qui exploite des prostituées.
C'est un macro,
voilà. Et donc là où j'étais boulevard Adolphe Max, quand je regardais en face, rue du Finistère, il y avait plein de prostituées qui faisaient le trottoir à l'époque, beaucoup. Et donc c'était le fantasme, quand on a 12 ans, 14 ans, le fantasme des putes qui étaient partout dans la ville. Très habillées, renard argenté, enfin à la mode des années 47, 48, 50.
Donc c'était la fourrure ?
C'était la fourrure, oui. Donc je devais ouvrir ma fenêtre, j'avais le spectacle. Et donc, c'était une promenade d'adolescents un peu torturés. Donc c'était mon rapport à la ville. Et puis il y a des cafés où on danse. Il y a beaucoup d'endroits, c'est une ville où on danse beaucoup. Par exemple, il y a un endroit magnifique, malgré mon grand âge, que je continue à fréquenter activement, que je vous recommande, qui est parallèle à l'hôtel Métropole, et à côté, il y a rue Saint-Michel, il y a Le Corbeau. Eh bien, Le Corbeau, c'est un bête endroit, un bête café. Et à minuit, tout change. Il y a une musique tonitruante, et les gens se mettent sur les tables et dansent sur les tables. C'est fantastique. Et puis, il y a un café qui s'appelle l'Ultime Hallucinatie, la dernière hallucination, qui se trouve près de l'église Sainte-Marie. C'était un endroit où, que paraît-il, Léopold II a fait bâtir pour une de ses maîtresses. C'était un chaud lapin, Léopold II. Voilà. Et alors, ce qui se passe, c'est que après, c'était repris par des architectes, très art déco, qui étaient complètement fauchés. Ils sont mis à brûler du mobilier pour se chauffer. Heureusement, c'était arrêté. Un flamand a repris ça. Et il y a encore tout le mobilier art déco qui est là. C'est assez extraordinaire comme endroit. Et tout près d'ici, il y a la mort subite. Vous quittez la galerie à la mort subite où on boit la gueuse, qui est une bière un peu amère, typique encore avec le décor. Donc il y a encore des cafés qui ont gardé ce caractère.
On peut manger des choses assez fortes, puissantes, des plats bruxellois, des tripes, comment est-ce qu'on appelle ça? Du riz de veau, du foie.
Des abats.
Des abats, voilà. Des abats, des abats. Ça aussi, j'adore passionnément. Je ne sais pas pourquoi. Et là, Bruxelles, c'est, voilà, on est le centre de l'Europe, mais tout ça est là. Hein, c'est tout ça.
Des plaisirs bruxellois.
Voilà, voilà. Alors, je n'ai pas encore mangé des salades faites avec des crêtes de coque. Ça, c'est un resto rue de Flandre qui fait ça. Il y a une sorte de revival de ce genre de plat, de ce genre d'odeur, de ce genre de matière. Comme ça. Il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Pourquoi cette langue? J'ai l'impression que dans ce mélange comme ça, c'est vraiment un mélange de mots, de choses qui ont un sens, enfin, culture germanique, on sent la culture latine, tout ça. Ça s'est synthétisé là-dedans. Et j'entends des couches d'histoire, de culture, tout ça, qui a trouvé une sorte d'harmonie, de façon d'être, de cohérence, de musicalité, de légitimité, de beauté, d'une certaine manière. Et bruxellois, j'adore la langue de Bruxelles, oui, ça j'adore.
Le titre de l'émission,
City World Brussels.
C'est le titre Ville-Monde, Ville, et puis le Monde, Bruxelles.
Ville, c'est Stad et Monde, c'est Wereld, ça c'est sûr, mais Ville-Monde, Bruxelles, voilà.
Avec Xavier Cannon, Françoise Keuten, Getsch, Luc de Brabander, Stéphane Hertmans, Claudio Pazienza, Caroline Lamarche, Laurent de Sutter, Jacques Socher, Gert van Istendal, Arnaud, Philippe Geluc, Françoise Keuten, David Evrard, Rip Hopkins, Thomas Gunzig, Nathalie Salmans et Nicole Mossou.
Encore, Ville-Monde Bruxelles.
Merci à Visite Bruxelles et à Thalys, ainsi qu'à Giusy Tinella de l'ambassade de France et à Sonia Dermians. Coordination Catherine Libert, prise de son Nicolas Mathias, mixage Manuel Couturier. Ville-Monde, Bruxelles, Maïlys Besserie, Charles Trot.
Voyage Ville-Monde Suite sur le site internet franceculture.fr où vous pouvez réécouter et podcaster Bruxelles Ville-Monde et toutes nos escales à travers le monde. L'exploration des rues, des sons, des voix de Bruxelles continue dimanche prochain. Babel Bruxelles, Ville-Monde Bruxelles, seconde escale dimanche 17 janvier à 15h. et dans quelques instants, nous retrouvons Culture d'Islam. Encore belle traversée de la nouvelle année en 2016 sur France Culture. Bon voyage.